Bonjour à tous. Donc je suis là avec Hélène et avec le chien aussi. Et en fait, nous sommes trois de Monoblet avec deux chiens aujourd'hui, puisqu'il y a Cathy qui est là aussi avec son petit chien. Bah, Cathy, elle est chrétienne du monde, Cathy, elle est de partout. Mais elle vient souvent à Monoblet puisque sa fille habite à Monoblet. Donc si vous avez l'impression d'être décoiffé ou si vous avez le mal de mer parce que je bouge trop, ça vient de moi, ça vient pas de vous, vous êtes pas malade, c'est moi qui bouge dans tous les sens, qui suis un peu excité, donc vous inquiétez pas, c'est incurable. Donc je mourrai comme ça, je mourrai excité, trop enthousiaste, ben voilà, c'est comme ça. Il faut des gens posés et calmes, il faut des gens un peu foufou, comme on a un chien qui est très calme là-bas, et puis un autre chien qui est un peu foufou. Bon, lui, c'est normal, il a 4 mois, moi, j'ai pas 4 mois, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous inquiétez pas, et je suis vraiment très, très heureux d'être là. On aime beaucoup vos pasteurs, bien sûr, on commence à les connaître, puisque ça fait pas longtemps qu'on est dans l'Union, et nous vivons des choses fantastiques à Monoblet et à la salle. Vraiment, on est très, très encouragés, on voit plein de gens qui viennent, on était plus que 20 la semaine dernière au culte, alors qu'on a commencé qu'il y a un an, donc on est vraiment, vraiment encouragés. Et nous sommes dans une union d'église qui est formidable. Hein, vous le croyez, ça? Hein? Attention, hein, parce que tous ceux qui ne disent pas ça, je vais le dire à Clémence. Hein. Tu pourras m'aider à donner les noms après. Parce que, ouais. On va prier. Seigneur, nous croyons que tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Nous croyons aussi que ta parole et la Bible est ta parole inspirée, utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour conduire dans la justice, Seigneur. Alors, je prie, Seigneur, ce matin que tu nous conduises, que tu nous enseignes, que tu nous corriges s'il y a besoin, dans ta parole, Seigneur, par ton esprit, pour que nous grandissions en toi et que nous portions du fruit encore davantage. Amen. Et le texte que je vais lire ce matin, c'est dans Actes 3, au verset 1. Alors, pendant que vous le cherchez, voilà. C'est un texte, il y a très peu de commentaires sur ce texte, c'est très drôle, alors qu'il devrait y en avoir plein. Il me semble, j'arrive pas à retrouver les sources, mais il semble qu'il est commenté. Il y a des historiens qui relatent cet événement assez extraordinaire qui est arrivé dans le temple, que vous connaissez probablement. Donc, on va le lire ensemble. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure, ça veut dire l'après-midi. Il y avait un homme, boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, écoutez, ça c'est beau, hein. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Je le répète, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il le reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne le quittaient pas, Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ?» Et un peu plus loin, verset 16, c'est par la foi en Jésus que le nom de Jésus a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Ah oui, excusez-moi. Je suis africain et on a vécu 15 ans en Afrique, alors on a un peu... Si vous avez envie de dire Amen, ça m'arrange. Voilà. Donc, c'est plus dans ma culture que dans une culture silencieuse. C'est comme ça. Hein. Si vous avez envie... Alors, au verset 1, on voit... Verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était à la 9e heure. C'est après la Pentecôte. On ne sait pas exactement à quel moment c'est. À l'époque, quand on est un historien à l'époque, ce qui compte, ce n'est pas l'exactitude de l'ordre chronologique, etc. Ce qui compte, c'est de faire passer l'histoire, de faire passer le sens de ce qui s'est passé. Et ça se passe juste après la Pentecôte. La Pentecôte, pourquoi on l'appelle la Pentecôte? C'est parce que c'est le 50e jour, c'est 7 x 7, 49. Vous connaissez vos tables? 7 x 1? 7 x 14? 7 x 7 égale 49. Donc, les Grecs appellent ça la Pentecôte, et c'était la fête des moissons, c'était la fête de la reconnaissance. On reconnaissait aussi pendant cette fête, on remerciait Dieu d'avoir donné la Torah au peuple. Et donc, cette fête arrive après Pâques et après l'Ascension pour nous. À Pâques, comme vous le savez, Jésus est crucifié, et au moment où Jésus est crucifié, le peuple est absolument... dispersés partout. Les disciples sont dispersés, les disciples sont perdus, ils ne comprennent pas. Et franchement, c'est difficile de comprendre. Ils l'ont vu faire des miracles, ils l'ont vu ressusciter des morts, ils ont entendu ses enseignements, ils ont vu sa douceur, sa bonté, ils ont compris qu'il était le Fils de Dieu. Et d'un seul coup, alors malgré le fait qu'il aurait annoncé qu'il allait être crucifié, il meurt. Et il meurt, c'est pas juste une mort dans un lit, c'est une mort infâme, nue, clouée à une croix, moquée par tout le monde. On a l'impression que la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu a été complètement brisé. Pierre renie Jésus. Les disciples s'échappent. Heureusement qu'il reste des femmes. Hein? Heureusement que les femmes sont là, parce que les femmes, elles sont encore là pour s'occuper du corps. Elles vont, deux jours après, au tombeau. Et là, qu'est-ce qui se passe au tombeau? Elles comprennent qu'il s'est passé quelque chose. Pierre et Jean, eux aussi, comprennent qu'il s'est passé quelque chose. Et tous rencontrent les anges, même rencontrent Jésus. Et il leur dit, il le voit, « Je suis ressuscité ». On connaît l'histoire des deux disciples d'Emmaüs, on connaît l'histoire de Thomas. On voit Jésus qui, pendant 40 jours, va prendre 40 jours pour remettre sur pied son équipe, pour guérir, pour consoler, pour encore expliquer à ses disciples tout ce qu'il a fait et tout ce qui va se passer. Parce que ses disciples, le mot qui est le plus incroyable dans le récit entre la Pentecôte, entre la résurrection et l'ascension, c'est que les disciples eurent des doutes. On voit ça dans Marc 16, on voit ça dans Matthieu, on voit ça dans Luc. Les disciples eurent des doutes. Vous avez des doutes des fois, vous? Ouais, hein, ouais, hein. Oh, bah oui, hein. Vous imaginez, les disciples l'ont vu mort, le voir ressuscité, et alors qu'ils sont avec eux, ils ont des doutes. Pourquoi ils ont des doutes? Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et la foi, si nous avons la foi, forcément, c'est la bagarre, ça va être au niveau de la foi. Est-ce que je crois vraiment que... Et donc, nous sommes... Dieu ne va jamais prouver son existence. Il va prouver son amour en envoyant son Père... son fils, pardon, mourir à la croix. Il va prouver son amour en nous donnant le printemps. Le printemps qui arrive, c'est la preuve de l'amour de Dieu, c'est la preuve de sa bénédiction, c'est la preuve de son existence. Non, pas son existence, de son amour, pardon. Mais il ne va jamais prouver son existence. Il nous demande de mettre notre foi en branle, de croire. Il nous demande de croire. Donc, ça va être la bataille, va être au niveau de la foi. On voit aussi à ce moment-là qu'il est en train de rétablir les relations entre tout le monde, et puis entre tout le monde, entre les disciples, parce que les disciples, c'est une équipe très hétérogène, comme l'Église d'ailleurs. Il y a des Bretons parmi nous. Il y a même des grands Bretons. Il y a même des petits Bretons. Non, ça c'est moi le petit Breton. Il y a moyen Breton, ça n'existe pas. Hein. Non, ok. Et est-ce qu'il y a des Cévenols parmi nous? Il y a des Sévenols, hein. Il y a des gens de toute origine parmi nous. Il y a des gens qui viennent de familles riches, il y a des gens qui viennent de familles pauvres, il y a des gens qui sont très, très éduqués. Vous écoutez certaines personnes à l'une épreuve. Oh, oh là 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 là, ils sont intelligents, ils savent des trucs et tout. Puis il y en a d'autres, ben oui, on fait ce qu'on peut, quoi. Hein, donc, on arrive de partout, il rétablit tout le monde et il leur dit, « Ok, maintenant, je vais vous envoyer, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et il monte au ciel et il leur dit, et c'est ça que c'est important, « Dans 10 jours, j'envoie mon esprit. » Ah, ok. Et il leur a dit avant, on voit ça dans Jean, il leur a dit, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille et que je vous donne mon esprit. Vous ferez des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites. » Moi, je ne sais pas comment croire, avec, comment comprendre ça. Mais c'est ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est ce que Dieu, c'est ce que la Bible nous dit de faire. Et il part. Et pendant 10 jours, les disciples, alors ils essayent d'élire un apôtre. Enfin, il y a des tas de trucs, ils ne savent pas trop quoi faire. Ils vont dans une pièce. Ils sont 120. Ils sont juste 120. Ils se cachent. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, s'ils étaient attrapés, si tout le monde est tué, il n'y a plus rien. Donc ils se cachent. Dieu les protège. Et le matin, l'Esprit tombe sur eux. Alors, il tombe sur eux d'une manière tranquille, douce, calme. Non ! Un grand bruit ! Ça tremble ! Il y a une tempête ! Il y a des langues de feu ! Ça bouge partout ! Ils sont tellement touchés qu'ils donnent l'impression d'être ivres à 9 heures du matin. Et en plus, le pire de tout ça, non, c'est pas le pire. Mais le truc le plus dingue, c'est que Pierre se lève, et Pierre, quand il parle, il a un accent galiléen. Je connais pas l'accent galiléen, mais j'essaye de faire un accent n'importe comment, parce que tout le monde sait, quand un galiléen parle à cette époque-là, que le gars, il vient de la campagne, quoi. Ou de la mer. Mais il vient pas vraiment de la ville. Il est vraiment marqué au niveau culturel. Il se lève, et il explique ce qui s'est passé. Et ce qui frappe les gens, c'est que tous les gens à la Pentecôte, ils viennent pour se rassembler de toute la diaspora, de toutes les tribus. Tout le monde entend, parle d'autres langues, parce qu'ils viennent d'endroits différents de tout le bassin méditerranéen. C'est un peu comme la feria de Nîmes. Pendant toute l'année, il y a 50 000 habitants à Jérusalem. Et au moment de la Pentecôte, il y a 300 000 personnes qui arrivent. Et donc, il y a tous ces gens qui rentrent, qui se déversent dans la ville et qui entendent parler de Dieu dans leur langue maternelle. Alors là, les gens sont absolument émerveillés. Et alors, Pierre se lève avec son accent accroché un par-dessus, et il prêche avec force et puissance, et les gens, en voyant tous ces signes, 3000 personnes se convertissent et donnent leur vie au Seigneur. Vous êtes prêts pour 3000 personnes ici à Alès ? Voilà, parce que c'est ça ce qu'on veut vivre. On veut vivre un réveil. Quand on voit nos grands temples là, dans nos villages, là, Saint-Hippolyte, le temple, il est presque plus grand que la ville, quoi. Eh ben, c'est parce que les gens étaient dans les villages, tous les villages étaient dans l'église. Tous les villages allaient dans l'église. On y est prêt pour ça? On prie pour le réveil. Oh Seigneur, on voit le réveil. Ben oui, allons-y alors. On veut voir les églises se remplir de monde de nouveau. Et on voit dans Actes 2, 41, ceux qui acceptèrent la parole de Dieu se font baptiser ce jour-là. Les adultes et les enfants, ça fait plaisir à tous les gens de l'UNEPREF. On baptise aussi les enfants, ok? Et puis, s'ajoute au groupe des croyants. Et régulièrement et fidèlement, tout le temps, on voit les croyants qui se réunissent, qui prient ensemble, qui regardent la parole de Dieu ensemble tous les jours dans les maisons. Et le premier jour, dans le temple. Voici mon premier point. Quand on est chrétien, on est forcément charismatique. Ah, il a dit charismatique. On est forcément charismatique. Ça veut dire que quand tu deviens chrétien, forcément l'Esprit vient vivre en toi. C'est obligatoire. Une église a forcément l'Esprit Saint en elle. On ne peut pas concevoir la vie chrétienne sans avoir l'Esprit en nous. Ce n'est pas possible. Nous croyons, on le dit dans nos confessions de foi, nous savons que l'Esprit, quand Jésus est parti, il a envoyé son Esprit et que son Esprit vit en nous. Regardez dans Romains 8, 9. Nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Est-ce que vous êtes chrétien? Levez la main les chrétiens, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Eh bien, vous avez l'Esprit en vous, c'est obligatoire. Forcément, l'Esprit Saint habite en vous. Comment vous le savez? Comment vous le vivez? Je ne sais pas, mais je pensais à ça pendant que je préparais. J'ai 50 millions d'exemples, parce que c'est la vie, ça. Quand je suis devenu chrétien, juste avant, je suis devenu chrétien aux États-Unis, et le seul livre que j'avais en français, c'était une Bible. Donc je lisais mon Nouveau Testament tout le temps. Je ne savais pas quoi lire d'autre, puis en même temps, on parlait de Dieu. Et puis c'était un jeudi soir, donc je lis ma Bible, et je me rappelle, pendant le repas, je donne ma vie au Seigneur, je comprends d'un seul coup, je comprends qu'est-ce que c'est que la foi, je venais d'une famille non chrétienne, je remonte dans ma chambre, j'ouvre de nouveau ma Bible, et c'est un livre complètement différent. Le livre est complètement différent. Pourquoi est-ce que le livre est différent? Parce que le livre que j'avais dans la main, c'est le même livre, c'est un livre, avec des papiers, des feuilles, des écritures et tout ça. Mais soudainement, l'Esprit Saint parlait au travers de ce livre. L'Esprit Saint lui donnait du sens. L'Esprit Saint lui donnait une vie. Dieu m'a parlé au travers de ce livre. Et d'un seul coup, je vois ce passage. Je me rappelle, je lisais un passage, je ne comprenais rien. Alors je le lisais, mais je ne comprenais rien. Et puis je lis le passage. Et soudainement, ça prend un relief extraordinaire. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon père. Je suis devenu chrétien. Mon père est arrivé le lendemain, une semaine après. Il dit, il est tombé dans une secte. Mais c'est parce que soudainement, il y avait cette... Dieu me parlait au travers de... Tout chrétien, tout ce que nous le vivons parce que l'Esprit Saint nous parle, parce que l'Esprit Saint nous conduit. Amen. Et il ne faut pas laisser aux charismatiques simplement le monopole de l'Esprit. Bien sûr que nous aussi, nous vivons par l'Esprit. Bien sûr que nous aussi, nous avons besoin de l'entendre. Quand nous prenons une décision, nous nous adressons à Dieu. Pourquoi nous nous adressons à Dieu? Parce que Dieu n'est pas une idole muette. Notre Dieu est un Dieu vivant. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Et s'il nous parle, il nous parle par son esprit. Il nous conduit. Il nous parle de la manière dont il veut nous parler. Il ne va jamais se contredire. Il ne va jamais contredire sa parole. Mais nous devons demander à Dieu de nous parler. Nous devons demander à Dieu de nous conduire. Nous devons demander à Dieu de vivre en nous. Romains 8, 16. Tout le chapitre de Romains parle de ça. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand on est découragé, quand on se sent rejeté, quand on ne sait plus comment faire, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On a besoin de savoir que nous avons un papa qui nous aime dans les cieux. C'est ça qu'on a besoin de savoir. C'est bien aussi si notre machine à laver se remet en marche. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de savoir que Dieu nous aime. Et si nous sommes ses enfants, si nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ, alors nous allons vivre une vie extraordinaire avec lui. Et 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Et j'ai pris 3 références, mais il y en a partout, 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 partout. Nous sommes une église, l'Esprit Saint vit au milieu de nous, l'Esprit Saint vit en nous. Les églises vont exprimer leur foi de manière différente, mais une église de Christ a forcément l'Esprit qui vit en elle. Amen. Excusez-moi. Amen. Okay. On continue, verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Alors, il y a cet homme qui est là, quand on est dans un pays pauvre, quand on a un problème de naissance, il n'y a pas de foyer pour s'occuper des handicapés, il n'y a pas d'aide sociale ou quoi que ce soit, il faut bien faire quelque chose. Alors, on met la personne en endroit où on peut mendier. À Conakry, en Guinée, on avait un grand rond-point qui s'appelle Amdalaï, et entre deux ronds-points, il y avait les gens, tous les boiteux, les jumeaux, on mettait tout le monde sur le bord de la route, et les gens jetaient des billets, et les petits-enfants couraient pour ramasser les billets, les redonner à leur maman ou à leur papa ou à la personne qu'ils accompagnaient. Et c'est comme ça que ça se passe. Dans la majorité des pays du monde, ça se passe comme ça. Heureusement, ça ne se passe pas comme ça chez nous, mais ça se passe comme ça. Et ces gens, ils sont là, ils voient du monde toute la journée. Ah, ils en voient du monde. Et ce monsieur, qui est assis à la porte du temple, il a dû voir ce jour-là des dizaines de milliers de personnes, puisqu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont dans la ville. Il voit des gens, il voit lui aussi Pierre et Jean. Et quand nous sommes dans la ville, et je sais que vous êtes à Alès, à La Salle, il n'y a pas de SDF parce que le village est trop petit, les gens s'occupent d'eux. Mais dès qu'on arrive à 3, 4, 5 000 personnes, on commence à voir des SDF. On commence à voir des gens qui sont dans la rue, qui vivent dans la rue. Ils sont là. Eux, ils voient tout le monde, mais personne ne les voit. C'est des gens qui sont complètement invisibles. C'est les invisibles. Et vous savez quoi ? La première chose qu'on peut faire quand on rencontre une personne qui est dans la rue et qui est malheureuse, qui est rejetée, la première chose que nous pouvons faire, c'est le regarder. Regardons-les. Quand on était à Paris, on avait un frère à l'église qui avait vraiment ce ministère, ce fardeau. Il travaillait toute la journée. Le soir, il allait, le jeudi soir, il nous emmenait à la gare de Lyon. Alors, on faisait des sandwichs ensemble dans le local de l'église. Et puis, on prenait nos petits sandwichs. On allait s'asseoir, on allait à la gare de Lyon. Et on donnait nos sandwichs aux gens qui étaient, aux SDF qui étaient là. À Paris, il y a toujours quelque chose à manger. Hein. Il y a toujours des trucs à manger. Mais on faisait les meilleurs sandwichs qu'on pouvait. Et ces personnes mangeaient leurs sandwichs avec nous. 35 d'entre eux sont venus dans la même année nous visiter. 35. Pourquoi ils sont venus nous visiter ? Parce qu'on les regardait, parce qu'on leur parlait. Il y en a un jour, il a pleuré, parce qu'on l'a accueilli dans l'église. Il a dit « Vous m'accueillez comme une personne normale ». Ben oui, tu es une personne normale. Parce que la dignité, notre dignité, ne vient pas de ce que nous faisons, ne vient pas de ce que nous avons comme diplôme, ne vient pas de ce que l'on est riche ou pas riche. Elle vient du fait que Dieu, nous a créés à l'image de Dieu. Donc ces hommes, ces femmes ont besoin qu'on les regarde. Ces hommes, ces femmes, quand on les regarde, on les rétablit dans leur dignité. Leur dignité que Dieu leur a donnée comme créature à son image. Alors, au verset 4, on voit « Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et alors, quand vous regardez un SDF, ou pas un SDF, mais je ne sais pas, quand vous allez dans un supermarché et que vous regardez l'hôtesse de caisse ou que vous regardez l'homme qui est à la caisse, peut-être que c'est pas tous les jours qu'un client va lui parler, c'est pas tous les jours qu'un client va le regarder. C'est pas une machine, c'est un être humain. Il le regarde fixement mais Jean fixa les yeux. Est-ce que nous fixons les yeux sur le monde autour de nous ? Est-ce que nous regardons le monde autour de nous ? Ou est-ce qu'on choisit de s'abriter ? En ce moment, on est bombardé d'images, on est bombardé d'informations. On nous demande de regarder partout. Pourquoi ? Pour ne rien voir, en fait. Arrêtons de regarder partout. Fixons les yeux sur les situations qui sont autour de nous. C'est ça ce que Dieu nous demande de faire. Oui, mais si je fixe les yeux sur un boiteux, qu'est-ce que je peux faire ? Toi, tu ne peux rien faire. Dieu peut faire quelque chose. Ah oui, toi, tu ne peux rien faire. C'est sûr que Pierre et Jean, ils ne peuvent rien faire. D'ailleurs, ils le disent après. Nous, on sait. Hein. Moi, je suis le gars qui a renié Jésus. Alors, je vais vous dire, j'ai fait mes preuves. J'ai fait mes preuves. Enfin, ce n'est pas moi qui ai renié Jésus, hein, c'est Pierre. Hein. Vous comprenez. Hein. Moi, j'ai fait d'autres trucs, mais ça, je n'ai pas fait encore. Pas comme Pierre, parce que franchement, Pierre reniait Jésus. Non, on ne va pas se moquer de Pierre. Bon, trop facile de se moquer de Pierre. Jean, Pierre, fixe les yeux. Il regarde attentivement. Dans Actes 14, 8, je n'ai pas donné la référence, on voit la même chose avec Paul. Paul est à Lystre. Alors, c'est une ville, ce n'est pas comme Jérusalem, c'est une ville païenne, complètement païenne. Il fixe les yeux sur un boiteux, là aussi. Et il voit que la personne face à lui a la foi pour être guérie. Ce n'est pas tout à fait pareil que pour ce boiteux-là, le premier boiteux. Et il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi et marche. » La même chose, le même mot, le même verbe. Paul fixa les yeux sur le boiteux. Dieu nous demande de fixer nos yeux sur les situations autour de nous. Pas de fixer les yeux forcément sur d'autres situations, mais regardons autour de nous. Oui, mais comment on va faire pour fixer les yeux ? Vous vous rappelez ce que j'ai dit il y a 25 minutes, là, au début de mon message ? Non, ça ne faisait pas 25 minutes. L'Esprit va nous conduire. L'Esprit-Saint va nous faire regarder, va nous demander de fixer nos yeux sur une situation. Alors, il s'attend à recevoir quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je n'ai ni argent, ni or. » Moi d'ailleurs, c'est pareil. Hein. Si vous voulez du pognon de moi, j'ai pas de pognon là. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or. Ce que j'ai, j'essaie de vous le donner. J'essaie de vous communiquer ma foi, par exemple. Mais qu'est-ce que vous avez à me donner, vous ? Qui me regarde là ? Qu'est-ce que tu vas me donner, toi ? Parce qu'on a tous quelque chose à donner à l'un et à l'autre. On a tous une part de l'esprit en nous. On a tous un témoignage. Dieu a fait quelque chose dans la vie de chacun. Je n'ai ni argent ni or. En 1260, Thomas d'Aquin, vous connaissez Thomas d'Aquin ? Il est connu, saint Thomas d'Aquin, je ne sais pas trop exactement ce qu'il fait. Enfin, maintenant, je sais parce que j'ai regardé. Mais il rend visite à un pape qui est à Avignon, pape innocent quelque chose, et le pape lui présente toutes les richesses de la papauté. Est-ce que vous êtes déjà allé au palais des papes à Avignon ? Il faut aller voir. Hein. Ben vous imaginez ce palais absolument extraordinaire, avec des tentures partout, des dorures, des meubles magnifiques, de la vaisselle peut-être en or ou en argent. Enfin, vraiment, c'est d'un luxe comme on ne voyait nulle part ailleurs à l'époque. Et après avoir montré ses trésors, Innocent déclara avec beaucoup de fierté, « Voyez-vous, mon brave Thomas, je ne peux pas dire comme Pierre, je n'ai ni argent ni or. » Parce que moi, c'est plutôt pas mal. Alors Thomas acquiesce et lui dit, « Et tu ne peux pas dire non plus, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Ça non plus, tu ne peux pas le dire. Qu'est-ce que j'ai à donner ? Pierre et Jean avaient leur foi à donner à ce moment-là. Elle vient d'où cette foi ? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vient de la parole de Dieu écrite, mais parfois Dieu nous parle directement aussi. Ça ne suffit pas. C'est bien de croire, mais il faut mettre sa foi en action. Dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que Dieu nous demande de faire, il nous demande de mettre notre foi en action. Par exemple, on a entendu avec Hélène, il faut vraiment aller voir à Saint-Hippolyte. On a mis notre foi en action. Oui, mais c'est l'UNEPREF, on ne connaît pas l'UNEPREF. C'est vraiment très bizarre, c'est vraiment très différent de là où on vient. On a mis notre foi en action. Qu'avions-nous pas pris une bonne décision ? C'est vraiment ça qu'il fallait faire. Et maintenant, on voit le fruit de cette décision qu'on a prise. On découvre des frères et sœurs de partout. Enfin, on vit une aventure merveilleuse avec Dieu. Mais il faut mettons notre foi en action. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Pierre ? Qu'est-ce qu'ils font, Pierre et Jean ? Verset 7. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Il le prend par la main droite. Est-ce que vous avez déjà pris la main droite d'un petit bébé qui ne sait pas marcher ? Il est lourd. Imaginez que vous prenez la main droite d'un vieux monsieur ou d'un adulte qui n'a jamais marché de sa vie. C'est lourd. Il le prend, il tend sa main, il tire. Est-ce qu'il va marcher ? Est-ce qu'il va marcher ? Je vais lui dire, lève-toi et marche. Il tire. Il ne peut pas marcher. Il n'a pas de force dans les jambes. J'ai un ami qui vient de se faire opérer. Il me disait, je ne peux plus porter un sac. Je suis resté 2 mois allongé. J'ai plus de muscles. Ce monsieur n'a jamais marché de sa vie. Alors, la Bible nous dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Mais pour que le miracle ait lieu, il a quand même fallu que Pierre, tend la main, prenne la main et tire la main. C'est ça la foi. La foi va nous conduire à faire des choses qui nous semblent totalement impossibles à croire, mais pourtant on va les faire. Et on les fait, et si on s'est trompé, on passe pour une cruche. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de magasins de cruches, vous avez remarqué, il y a beaucoup de cruches dans les magasins. Ça n'a aucune importance. On est des cruches, et alors ? Par contre, si c'est vraiment, on a vraiment entendu Dieu, et si c'est vraiment Dieu qui agit, alors Dieu se révèle. Dieu montre sa puissance, Dieu montre son amour, et les gens voient autour d'eux que Dieu est là. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entre partout, et tout le monde le connaît, évidemment, tout le monde est passé devant lui. Et puis tout le monde le connaît et dit, oh, c'est le boiteux qui marche. Alors, j'ai connu quelqu'un comme ça, il disait, quand il allait dans un village, Dieu l'a utilisé pour faire un grand réveil en Côte d'Ivoire, il allait dans le village, il priait pour tous les malades. Les malades étaient guéris, beaucoup de malades étaient guéris. Ensuite, il disait, c'est au nom de Jésus-Christ que ces malades ont été guéris. Et c'est ce que fait Pierre. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou notre propre piété que nous ayons pu faire marcher cet homme ? Pourquoi il dit ça ? Parce que quelques années avant, Jésus a fait des miracles comme ça. Mais Jésus, lui, il les a fait en son nom propre. Jésus, et c'est pour ça que les gens savaient que c'était le Fils de Dieu, parce que la foi n'est pas que théorique, la foi est aussi expérimentale. Je ne suis pas en train de dire que la foi n'est qu'expérimentale, certainement pas. La foi est aussi expérimentale. C'est-à-dire qu'on a besoin de la parole et on a besoin de démonstrations d'esprit et de puissance. Et donc on voit bien que Jésus, lui faisait les miracles en son propre nom. Donc les gens savaient que c'était le Fils de Dieu. Mais Pierre et Jean ne veulent surtout pas être pris pour des dieux. Un peu plus tard, dans Acte 14, pour revenir à Paul, Paul fait ce miracle. Alors à Lystre, tout le monde pense que Paul, Barnabas et toute la compagnie sont des dieux. Et ils commencent à leur construire des statues, etc. Ça tue complètement la campagne d'évangélisation qu'ils faisaient, parce qu'ils sont obligés de dire qu'ils ne sont pas des dieux. Alors les gens sont déçus, ils les frappent, ils les laissent pour morts. Donc non, nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas Jésus. Nous agissons, nous avons la foi en Jésus. C'est ça ce que dit l'apôtre Pierre. Il dit, ce n'est pas en mon nom propre que j'ai fait ça, mais c'est au nom de Jésus. Et si nous faisons les choses, si nous prions, si nous avançons au nom de Jésus, si nous avançons avec cette motivation de voir le nom de ce nom exalté, si nous avançons avec cette volonté de voir le royaume avancer, si nous avançons avec cette compassion des âmes perdues, cette compassion qui nous fait comprendre que sans Jésus nous sommes perdus, alors Dieu va nous utiliser et il nous utilisera avec puissance. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 16, c'est par la foi dans le nom de Jésus, c'est ce nom qui a raffermi, c'est ce nom qui a guéri ce boiteux. Mais la foi de qui ? C'est pas la foi de Jésus qui a guéri le boiteux. C'est la foi de Pierre. C'est Pierre qui a mis sa foi en jeu. Quand nous mettons notre foi en jeu, Dieu agit. Notre foi en Jésus, bien sûr, mais Dieu nous demande de mettre notre foi en action pour lui obéir, pour faire des choses merveilleuses pour lui, pour prier. Je ne sais pas, mais à Paris, on avait une église, on a eu plein de conversions, parce que dans nos groupes de maison, on priait simplement, les gens, les non-chrétiens venaient et on priait pour eux. Et ils nous disaient, on a tel problème, on a telle difficulté, est-ce que vous pouvez prier pour ça ? Alors on priait pour ça. Dieu répond à la prière. Et donc les gens revenaient et disaient, mais Dieu est vivant. Oui, 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 il est vivant, il s'appelle Jésus. Et on continuait à expliquer, et ils devenaient chrétiens suite à ça. C'est par la foi en son nom. Un peu plus loin, au verset 19, il dit, il annonce l'évangile. Tout acte de foi contiendra toujours l'annonce de l'évangile. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et ensuite, donc tout ça c'est complet. C'est par la foi en son nom que tu peux être sauvé, que tu peux être guéri, que tu peux être réconcilié avec Dieu. Alors, cette histoire, on la laisse dans notre bouquin, on met le bouquin sur une étagère, puis on ouvre un autre bouquin, on lit un autre passage, et on continue notre vie. Ou alors on croit. On croit que Dieu peut agir aujourd'hui. Ou alors on croit que Dieu veut vraiment nous parler. Ou alors on est prêt, on sait que l'Esprit vit en nous. On arrive à faire des choses. Moi, j'arrive à faire des choses que je n'arrivais pas à faire avant avec le Seigneur. Alors je me dis, oh, c'est ma sanctification. Non, c'est l'Esprit qui agit en moi. C'est l'Esprit qui me transforme. C'est l'Esprit qui me sanctifie. C'est l'Esprit qui me conduit à ne pas me mettre en colère 37 fois par minute. C'est par la puissance de l'Esprit que je peux faire ça. Je n'ai ni argent ni or. Regardons autour de nous, laissons Dieu nous parler, nous le verrons agir d'une manière merveilleuse tout autour de nous. Nous n'avons ni argent ni or, mais Dieu a mis en nous d'autres choses qui veut que nous donnions au monde qui nous entoure parce qu'il nous l'a donné en premier. Amen. On va prier. Seigneur, je suis encore émerveillé par ta parole. Je suis absolument émerveillé par ta parole, Seigneur. Je suis émerveillé par ton amour. Je suis émerveillé par ta puissance. Je suis émerveillé par ta patience, Seigneur. Je suis tellement émerveillé par le salut parfait que nous avons en Jésus-Christ. Ce salut dont Pierre dit que même les anges désirent y plonger leur regard, tellement c'est quelque chose de fabuleux, Seigneur. Tu ne nous as pas simplement sauvés pour faire de nous des meubles ou des vases, Seigneur, mais tu nous as sauvés pour être co-héritiers, pour être tes collègues, pour travailler avec toi dans le champ de la moisson, Seigneur. Tu nous as sauvés parce que tu veux répandre, que le monde puisse voir la perfection de ta personne, la perfection de tes œuvres, la puissance de ton action au travers de nos vies, Seigneur. Et Seigneur, je te bénis pour cette église, Seigneur, qui brille des mille feux à Alès, Seigneur. Je te demande vraiment de continuer de... Je te loue pour tous ces anciens, Seigneur, qui, depuis des générations, qui donnent et qui prient et qui sont consacrés à cette église, Seigneur. Bénis toutes ces familles qui ont donné pendant des générations, Seigneur, et continue de bénir les prochains enfants, les prochaines générations, Seigneur. Continue de souffler par ton esprit sur chacun d'entre nous, toutes générations confondues, Seigneur. Et que ouvre nos yeux pour que nous puissions voir tout autour de nous ce que tu veux que nous fassions pour toi. Seigneur, donne-nous cette foi en Jésus qu'avaient Pierre et Jean, Seigneur. Et permets que nous puissions voir ta puissance se répandre et se révéler tout autour de nous. Seigneur, non pas pour notre gloire, non pas pour notre honneur, mais pour la gloire et l'honneur du nom de Jésus, du nom du Père, du nom de l'Esprit, du nom de notre Dieu que nous adorons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Amen. Amen.